Bonjour à tous et à toutes, je suis Ludwine et vous écoutez le podcast Human Coders. Dans chaque épisode de ce podcast, j'invite un ou une dev ou professionnel de l'informatique pour parler de techno, de pratiques de développement ou bien de sujets plus généraux mais toujours en lien avec l'informatique. Au programme également, des parcours de dev qui j'espère vous inspireront. Alors, tous les épisodes sont disponibles sur SoundCloud ou bien votre application de podcast préférée. Pensez à vous abonner et nous laisser des commentaires ou des likes, ça nous fera toujours plaisir. Je retrouve aujourd'hui Cécile Veneziani pour une expérience de dev. Cécile est développeuse, spécialisée en Ruby on Rails, et elle est passée freelance il y a déjà plusieurs années. Dans cet épisode, on a parlé de ses premiers pas dans l'informatique, de son passage en tant que salarié freelance dans une coopérative, et on a parlé de toutes ses missions bien loin de son quotidien de développeuse. Et oui, parce qu'être freelance parfois vous ouvre des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Je ne vous en dis pas plus sur ses diverses activités. Très bonne écoute. Bonjour Cécile.
Salut.
Alors première question, est-ce que tu peux te présenter ?
Du coup, je suis Cécile Veneziani. Je suis développeuse Ruby on Rails. J'ai 12 ans d'expérience dans le domaine et j'ai fait quelques années en agence web. Et maintenant, je suis freelance et donc développeuse web et co-driver du bootcamp Le Wagon Nantes et Rennes.
Ok. Première question, comment t'en es arrivée à devenir développeuse ? Quelle est ta première expérience du code ?
C'est une expérience qui est étrange dans le sens où j'étais au lycée et à l'époque c'était MSN et j'ai un pote sur MSN qui m'a dit genre ouais Linux c'est trop bien. J'ai dit mais attends mais c'est quoi Linux ? Je suis pas capable de t'expliquer, viens rejoins-nous sur l'association Linux 62 donc du Pas-de-Calais. Il y a notre grand Manitou qui va venir t'expliquer ce que c'est Linux. Et donc, je me suis retrouvée à installer Linux donc à 16-17 ans, à l'époque où Ubuntu n'existait pas, à l'époque où c'était pas quelque chose de connu, à l'époque où il y avait quasiment que Windows qui dominait le marché sur ce sujet. Et je me suis mise à bidouiller mon ordinateur, à bidouiller mon Linux, à essayer de configurer des trucs. Et en rejoignant du coup donc, cette association de promotion de Linux et du logiciel libre, j'ai commencé à coder avec eux. Et j'ai tellement bien aimé, en fait, que ce sont devenus des potes. Et un d'eux m'a dit, rejoins-nous en informatique. Rejoins-nous en troisième année de licence info. Et donc, moi, j'étais en train de faire donc ce qui s'appelait un DUT dans le multimédia. Donc, j'apprenais le flash, comment fonctionne le CD-ROM, enfin, ce genre de choses. Et donc, moi, j'étais partie là-dessus. De l'infographie, du graphisme, de la communication, de l'audiovisuel. Et finalement, je me suis réorientée donc, directement en troisième année de licence info avec ses potes. Et je suis partie de ma banlieue parisienne pour arriver sur Lille.
Et du coup, tu as continué tes études. Donc, tu es allée jusqu'où ? Tu as fait un master ? Tu as fait une école ?
Du coup, j'ai fait en informatique, j'ai fait 2 ans. Donc, j'ai fait une licence 3 pro. Et un master 1 pro, donc dans le même cursus. Le premier semestre de la licence, c'était assez dur parce qu'au final, je manquais les 2 premières années d'informatique, surtout sur le côté mathématique. J'ai eu la chance que c'était une licence pro où pendant le premier semestre, c'était que des récaps. Après, c'était pas forcément non plus évident dans le sens où chaque TD, chaque TP, on arrivait, il n'y avait pas de cours qui introduisait vraiment la notion, c'est vu qu'on était censé les avoir vus pendant les 2 premières années d'école d'info. Donc c'était tout de suite, on fait un exo sur ça. Donc c'était un petit peu angoissant au départ. Je me suis souvent dit, genre, en sortant de cours, c'est bon, j'arrête tout, je démissionne, entre guillemets, je quitte la formation. Et mes potes me disaient, mais t'inquiète, ce soir on t'explique. On te réexplique un petit peu tout ça et ça va aller, t'inquiète pas. Donc j'ai fait cette première année donc de licence 3, j'ai enchaîné sur donc un M1 en informatique et ensuite je me suis encore réorientée, j'ai fait un master 2 professionnel toujours dans les réseaux. Donc tout ce qui est carte réseau, wifi, les protocoles réseau, etc. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai surtout appris que j'aimais pas le réseau, que c'était pas mon truc. Et ce que j'aimais faire au final dans tout ça, c'était du web, parce que j'aimais bien le côté résultats immédiats et visuels.
Ok. Et c'est comme ça, du coup, que tu en es arrivé à partir sur du Ruby on Rails ?
Alors, pas exactement. En fait, à la base, quand je bidouillais avec mes potes, donc avant de rejoindre carrément une formation d'informatique, je faisais un peu de Python avec eux. Et en fait, c'est super cool comme langage parce que bah, c'est hyper accessible. Et donc, bah, moi, j'adorais le Python. Je faisais du Python dès que je pouvais. Tous les stages que j'ai pu faire, j'ai eu la chance de pouvoir les faire en Python plutôt qu'en Java. À l'époque, tout le monde faisait du Java, même en stage. Donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire tous mes stages en Python et en plus dans en collaboration avec des laboratoires de recherche en chimie, dans la qualité de l'air, en fait. Donc, sur un domaine qui me plaisait. Et donc, en sortant de formation, je cherchais donc un job dans le web en Python. Et à l'époque, c'était pas quelque chose de courant, à part sur Paris. Et étant sur Lille, il n'y avait aucune offre d'emploi qui cherchait donc des développeurs en Python pour du web. La seule offre que j'avais vue, c'était sur du Odoo, qui était donc un ERP, et ça ne m'attirait pas forcément. Et je me suis retrouvée à poster donc mon CV en ligne en disant que je faisais du Python, et il y a une boîte qui m'a contactée en disant bah, « Écoute, tu fais du Python, fais du Ruby, c'est assez proche. Tu fais du Django, le framework web le plus utilisé en Python. Nous, on fait du Rails. Écoute, c'est aussi assez proche. Est-ce que ça te tenterait de passer sur du Ruby et du Ruby on Rails ?» Et j'ai dit oui. C'est comme ça que je me suis retrouvée à faire du Ruby on Rails.
D'accord, ok. Et en fait, on s'est contacté aussi parce que j'avais très envie que tu partages ton expérience de freelance, en tant que freelance. Donc là, ça fait plusieurs années que tu es freelance et que tu fais des missions assez diverses. On va les détailler un peu plus tard. Et je sais que bah, ça peut être difficile ou un peu intimidant de passer à ce statut de freelance. Et je me demandais du coup comment ça s'était passé pour toi de faire cette transition.
Donc avant je travaillais donc en agence web, j'ai fait plusieurs agences web donc sur la métropole lilloise et je me suis retrouvée en fin 2013 donc à me lancer en freelance. Et c'est vrai que c'était assez intimidant à la base. Moi quand je voulais du coup chercher un taf en Python, il y avait justement pas mal de mes potes qui me disaient bah vas-y lance-toi en freelance. Parce qu'au final, sur l'île, tous les développeurs Python, c'était tous mes potes et ils étaient tous freelance. Et à l'époque, je leur disais genre, mais jamais, jamais je pourrais être freelance. Moi, freelance, c'est juste pas possible. Il me faut quelque chose de stable, j'ai trop peur, je saurais pas me vendre. Enfin, vraiment, toutes les craintes qu'on peut avoir. Et en fait, donc fin 2013, je quittais le poste dans lequel j'étais en agence web et je me suis dit, en fait... J'ai repensé au freelance et je me suis dit, si je le fais pas maintenant, peut-être que je le ferai jamais. Donc, essaye de te lancer maintenant, essaye de franchir le pas et fais-le. Donc, en fait, j'ai juste été voir mes fameux potes en question et j'aurais posé plein de questions, genre, mais comment ça marche? Comment tu t'es lancé? Ils ont essayé de me donner pas mal de billes. Et ce que j'ai fait, qui est peut-être un peu différent de ce que la plupart des gens pourraient faire, je ne me suis pas lancée en auto-entrepreneur, micro-entreprise. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rejoint une coopérative d'activité et d'emploi. Donc c'est une sorte de... on pourrait résumer ça comme une sorte de SCOP, mais plutôt dans l'économie sociale et solidaire. Et c'est un peu comme du portage salarial dans l'économie sociale et solidaire. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, on n'est pas tout seul. On est accompagné, on a un gestionnaire d'activité qui nous aide. Et aussi, quand on soumet des devis ou des factures, on les soumet en fait à notre gestionnaire qui va venir les regarder, venir les valider et nous dire si jamais bah, on est en train de faire une connerie et qu'en fait, on pourrait se faire avoir parce qu'on a oublié de mentionner certaines clauses, par exemple. Donc, j'ai choisi une voie qui était quand même un peu plus complexe dans le sens où... quand on est dans une coopérative d'activité et d'emploi, donc on est entrepreneur salarié, ce qui veut dire que concrètement, pour toucher 50 euros de salaire, il faut avoir encaissé 100 euros. Parce qu'il y a toutes les charges patronales, toutes les charges salariales qui rentrent en compte, et également, bien sûr, un pourcentage que la coopérative prend. Mais j'étais prête à jouer le jeu, parce qu'au final, c'est ce qui se passe. Hein. Quand on est employé dans une boîte, on a toutes ces charges qui rentrent en compte. C'est comme ça que, bah, que ça fonctionne en France. Et donc, j'étais prête à jouer le jeu. Et pour moi, je me disais, bah, là, la coopérative, elle prend 10%. Bah, ces 10%, pour moi, ça les vaut parce que, bah, ils vont prendre en charge tout ce que moi, j'ai pas envie de gérer. Donc, tout le côté administratif, gestion de paie, gestion de déclaration auprès de l'URSSAF, toutes ces choses-là, eux, ils s'en chargent.
D'accord. Donc, en fait, si je comprends bien, tu es un peu comme une salariée, c'est vraiment le statut salarié, comme si tu étais dans une boîte, entre guillemets, classique. Tu reçois tes fiches de paie et par contre, c'est toi qui vas quand même chercher les clients ou qui va chercher tes missions, c'est bien ça ?
Exactement. Je suis officiellement entrepreneur salarié. J'ai 400 collègues officiellement répartis sur la métropole lilloise et aussi la région. Et donc concrètement, pour 10%, il s'occupe de tout, sauf la partie commerciale et mon cœur de métier, donc qui est ici le développement web, la formation et l'accompagnement.
D'accord. Mais est-ce que finalement, être dans cette coopérative, ça t'aide pas à trouver de nouveaux clients? Parce que, enfin, je sais pas, mais ce que j'ai en tête des quelques coopératives que je connais, c'est quand même qu'il y a, une partie réseau. Face à d'autres professionnels éventuellement
Oui.
dans le même domaine que toi ou complémentaires, et finalement bah, ça te fait un réseau qui pourrait t'apporter des clients.
Oui, alors moi j'en profite plus trop dans le sens où maintenant j'ai déménagé et je suis à Nantes dans le cadre du Wagon Nantes. Oui, c'est quelque chose qui est très courant et il y a aussi, on forme des groupes en fait de travail. On peut avoir un groupe, enfin dans la coopérative dans laquelle je suis, il y a un groupe communication, il y a aussi un groupe web, et du coup on se rencontre et on essaye d'échanger aussi sur bah, ce sur quoi on est en train de travailler, ou pourquoi pas aussi répondre à des appels d'offres.
D'accord.
Il y a aussi ça qui est assez intéressant, c'est que la coopérative est organisme de formation. Ça veut dire que dès qu'on veut répondre à un appel d'offres ou alors à une formation qui serait financée par un OPCO ou autre, bah, on n'a pas à avoir toutes ces démarches à faire. La coopérative est organisme de formation.
Oui, et ça, bah, pour travailler pour Human Coders, qui est organisme de formation, je vois bien l'intérêt pour de potentiels formateurs à faire partie d'une coopérative, en fait. Ça allège quand même pas mal, ouais, la partie administrative est quand même pas mal allégée.
C'est clair.
Du coup, c'est vrai que bah, tu m'as précédée dans ma question, parce que quand on veut se lancer freelance, la question du statut est super importante. Et parfois, je me rends compte que ça peut être un frein. Ça peut être au niveau financier, au niveau aussi administratif. On ne sait pas forcément laquelle choisir, et ça peut donner envie peut-être de ne pas se lancer. Est-ce que tu conseillerais pour des gens qui se lancent d'opter peut-être pour une coopérative ou en tout cas de se renseigner sur le sujet?
Clairement, je leur dirais oui de se renseigner. C'est pas parce que moi j'ai été dans une coopérative que tout le monde devrait y aller. C'est plutôt oui pour les personnes qui ont un peu peur, cette petite phobie administrative, ou qui se sentent pas forcément à l'aise de devoir tout gérer dès le départ. Bah pourquoi pas, oui, contacter une coopérative d'activité et d'emploi et assister à une première session d'information et voir si ça pourrait leur convenir. Mais je connais pas mal de personnes aussi qui ne passent pas par une coopérative d'activité et d'emploi et qui ont décidé bah, de s'équiper elles-mêmes et de prendre un comptable, etc.
Oui, parce que c'est vrai que, bon, je pense que les gens s'en doutent, mais quand on passe freelance, on devient la personne qui fait les factures. Enfin, on commence en fait à faire plein d'autres tâches qui nous étaient jusqu'ici assez transparentes ou peu connues. En fait, je trouve un autre aspect quand on est freelance, c'est le choix des missions. Il y a plein de types de missions différentes. On peut faire des missions courtes, longues. Il y avait parfois des freelances, je me souviens, dans d'anciennes boîtes où j'ai bossé, qui restaient là pendant 2 ans. Toi, comment tu as choisi tes missions?
Alors, j'ai fait un petit peu de tout, bien sûr. Au départ, j'ai surtout fait des missions assez courtes où je venais juste sur quelque chose de bien scopé, où je venais faire une fonctionnalité, c'est tout, où je venais faire quelques petits correctifs. Et très rapidement, je me suis positionnée plutôt comme le renfort qui arrive dans une équipe technique. Ce qui fait que comment je me vends comme un nouveau collègue qui va arriver dans l'équipe, qui va rejoindre donc l'équipe technique, donc plutôt back-end vu que je suis développeur Ruby on Rails, et qui va s'intégrer vraiment dans l'équipe. Et donc c'est une immersion que je fais et qui peut être de quelques mois à quelques années. Là, par exemple, le client avec qui je travaille, ça fait maintenant, je crois, 3 ans que je suis là.
Et il me semble aussi que tu t'es lancé dans de la formation. Et est-ce que c'est une mission que tu avais imaginée quand tu t'es lancé freelance ?
Alors, le côté formation, je n'avais pas du tout imaginé. En fait, c'est comment ça s'est passé ? C'était 6 mois après m'être lancée en freelance. J'ai vu sur Twitter un tweet du CTO du Wagon, donc il y a un bootcamp pour apprendre à coder, et qui disait « Ouais, on cherche des formateurs Ruby on Rails, contactez-nous. » Et j'ai envoyé un mail en disant bah, « Je suis freelance, donc là je remplis cette case, je suis dev Ruby on Rails, je remplis aussi cette case, par contre j'ai jamais donné de formation, mais dans les expériences que j'ai pu avoir par le passé, quand j'accompagnais des personnes, ils me disaient que j'étais... capable de bien leur expliquer, qu'ils avaient apprécié l'accompagnement ou l'onboarding que je pouvais faire avec eux. Et donc ça s'est passé comme ça. J'ai fait ensuite 3 jours de test donc sur la deuxième session du wagon à Paris, donc c'était en 2014. Et ça s'est bien passé, et c'est comme ça que je me suis lancée donc, à être à mi-temps prof sur les sessions du wagon à Paris.
Parce que dans les freelances autour de moi, je vois qu'il y a beaucoup de personnes en fait, qui varient leur mission. Il y a bien sûr des missions de dev ou de conseil, mais il y en a aussi beaucoup qui passent sur de la formation. Alors ça peut être de la formation courte, mais aussi dans des écoles d'ingénieurs, des universités, des IUT, BTS. Et je me demandais en fait, ça me semble intéressant de le mentionner parce que peut-être que ça peut être un argument aussi pour des gens qui n'oseraient pas se lancer. C'est-à-dire que être freelance, ça ouvre peut-être de nouvelles portes. Je ne sais pas ce que tu en penses et de nouvelles idées de mission.
Carrément. Je ne sais pas si ça vient par le fait de m'être mise en freelance, mais c'est vrai que je me ferme beaucoup moins de portes ou beaucoup moins on va dire de voies différentes, quoi. Avant, j'étais vraiment genre juste développeur, je faisais juste du développement. Et maintenant, bah, j'ai à la fois une partie de développement back-end, mais aussi un côté formation donc en école, et aussi accompagnement de personnes qui se lancent en autodidacte ou qui veulent aller plus loin plus tard. Et ça, oui, j'aurais moins envisagé en étant juste employée dans une boîte.
Et puis, je connais aussi des gens qui écrivent des supports techniques, en fait, ou des articles techniques, qui sont rédacteurs pour des MOOC. Donc, il y a tout un tas, en fait, d'autres, entre guillemets, métiers ou missions qui peuvent tomber quand on passe freelance. Et c'est vrai que je trouve qu'on n'en a pas connaissance avant de le faire.
C'est vrai.
En fait, il y a un autre aspect que tu as un petit peu mentionné. Tout à l'heure, tu disais que tu te vendais comme un renfort dans une équipe. Et ça m'amène à la question du personal branding. En fait, quand on est freelance, on doit se vendre, on doit trouver ses clients, on doit arriver à se présenter. Et ça aussi, je pense que ça peut être un frein. Alors, comment tu as abordé cette question ?
Je ne l'ai pas trop abordé, le côté vente. Je crois que un peu comme tout le monde à l'époque, je me suis créé un compte sur Malte, j'ai commencé à remplir mon profil. J'ai aussi pris le temps d'essayer de faire un site qui est très vieux maintenant, qui n'a jamais été mis à jour. Et comme beaucoup de freelance aussi, je pense que c'est aussi passé par le réseau des anciens collègues ou autres qu'on pouvait déjà connaître. Et j'ai eu la chance, entre guillemets, de ne pas avoir à faire trop de commercial, trop de branding à ce sujet. Et j'ai aussi la chance qu'il y a pas mal de personnes aussi qui m'ont recontacté parce que on avait eu l'occasion de travailler une fois, deux fois ensemble et ils avaient bien aimé notre collaboration. Et donc, de fil en aiguille, ça a amené de nouveaux clients, de nouveaux prospects.
D'accord. Et est-ce que tu as des conseils peut-être pour des gens qui se lanceraient sur le sujet ?
Je dirais ne pas hésiter déjà à avoir une présence, bien sûr, sur le net, donc que ce soit donc via un site perso et une présence sur Malte, mais aussi de ne pas hésiter à donc, rejoindre les groupes de freelance dans leur ville, dans leur région, et de ne pas hésiter à assister au plus de réunions qui puissent exister, au plus d'événements. Et c'est en se construisant un réseau sur un tissu plutôt local où ils auront aussi l'occasion d'avoir leur première mission.
Alors quand on s'est parlé pour préparer ce podcast, tu m'as parlé aussi de ce que tu faisais depuis un an et demi au wagon. Et ça m'a pas mal interpellée parce que finalement, tu vas le détailler, mais c'est assez loin de ton rôle premier de développeuse. Et c'est ce que je trouve vraiment génial dans le fait de passer freelance, c'est que ça offre des, on en parlait un petit peu avant, mais de nouvelles perspectives. Et ça ouvre vraiment sur des métiers auxquels on n'aurait pas pensé. Alors j'enlève le spoiler, mais est-ce que tu peux un peu nous dire ce que tu fais pour le wagon depuis un an et demi ?
Ce qui est drôle, c'est que quand j'étais employée, je me disais jamais je deviendrais freelance. Et en tant que freelance, je me disais jamais... je rejoindrai une boîte en tant qu'associée, et c'est le cas. J'ai rejoint du coup le wagon Nantes et Rennes, donc voilà, la franchise du wagon Nantes et Rennes, donc en tant qu'associée avec donc, deux autres personnes. Et donc depuis que j'ai rejoint le wagon Nantes et Rennes donc, en associée, j'ai plus du tout le même rôle. Jusqu'ici, j'étais principalement prof pour les deux villes. Et maintenant, en fait, je garde un fort rôle côté pédagogique, mais en fait, maintenant, je suis plus dans l'organisation des plannings qu'on peut avoir, la répartition de nos profs, et aussi gérer leur encadrement et s'assurer qu'ils évoluent. La plupart de nos profs, on les recrute parmi nos alumni, et donc je veille à ce qu'ils se forment et à ce qu'on puisse les faire passer en tant que prof et que ça se passe bien et qu'on les lâche pas juste dans la nature. Ça, c'est une de mes casquettes depuis que j'ai rejoint en tant qu'associée, et une autre que j'attendais pas forcément. Je suis passée plus sur le côté communication et marketing. Je m'occupe des réseaux sociaux, donc notamment LinkedIn, Twitter, Instagram, et je fais aussi toute une partie plus marketing, et je travaille donc en partenariat avec certains écosystèmes du coup de Nantes et de Rennes avec mes deux autres associés. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais jamais envisagé quand j'étais employée.
Ouais, bon, ça me fait sourire parce que je me retrouve un peu dans ce que tu dis, parce que j'étais dev pendant 6 ans et qu'ensuite je suis passée aussi freelance. Et pareil que toi, ça m'a ouvert de nouvelles portes. Et là, aujourd'hui, je suis en train de t'interviewer pour le podcast Human Coders. Et c'est vraiment pas quelque chose que j'aurais imaginé à la base. Et comme toi aussi, je m'occupe de la com, d'une partie de la com pour Human Coders. Et, je trouve ça assez génial parce que t'es amené à faire des choses que t'aurais pas faites à la base. Et tu continues d'apprendre. Et ça reste toujours quand même en lien avec le départ qui est l'informatique.
Ouais, c'est clair, c'est ça qui est juste génial.
Je dis pas que ça arriverait à tout le monde si vous passez freelance, mais en tout cas, je trouve qu'il y a moyen d'innover. En étant freelance, il y a quand même l'opportunité d'être varié en fait, dans ce qu'on fait.
C'est ça que j'aime bien aussi, le côté varié. C'est que en rejoignant le wagon, en fait, j'étais plus juste en train de faire du code toute la journée, 5 jours par semaine. Je faisais 2 jours où j'enseignais. Le wagon, c'est quand même un bootcamp assez intensif. À l'époque, c'était 9h-19h. Et au bout de 2 jours, t'es complètement rincé et tu bascules sur le côté développement. Et t'es content, en fait, de rejoindre à nouveau une codebase, de mettre focus dedans, de plonger dans une implémentation. Et ensuite, une fois que t'as fait tes 3 jours, tu reviens en code. Et ensuite, tu reviens en formation et c'est juste agréable, je trouve, d'osciller sans cesse entre formation hyper intense, mais en même temps, tu vois des gens et tu les vois évoluer, tu les vois progresser, ça fait juste plaisir. Puis ensuite, tu reviens dans le code et tu produis aussi quelque chose. Et c'est ça que j'aime bien, en fait, c'est sans cesse changer de l'un à l'autre.
Le fait de changer comme ça d'activité, est-ce que tu as vu des impacts, qu'ils soient positifs ou négatifs ?
Le seul côté négatif que j'aurais quand je donne une formation, c'est que je suis incapable de suivre mes mails. Je n'y arrive pas et ça, il n'y a pas de pause, quoi. Toute la journée, tu es dédiée à tes élèves et le reste, c'est accessoire et je peux louper des notifs sans souci, je suis focus avec mes élèves. Mais c'est le seul désavantage que je vois. Après, le reste, c'est très agréable. Et j'aime bien, du coup, switcher de l'un à l'autre, c'est que du coup, ça me garde motivée, quoi. J'ai moins de lassitude parce que bah, tous les 2-3 jours, je change de l'un à l'autre, quoi.
Super, écoute, je sais pas, est-ce que tu as un dernier message peut-être à passer aux personnes qui nous écoutent, hein?
Bah, si jamais vous vous posez la question de vous lancer en freelance, ne tardez pas trop et tentez l'aventure. Et au pire, qu'est-ce qui se passe? Vous retrouverez forcément un job.
Super, et c'est très vrai. Ok. écoute, merci beaucoup Cécile d'avoir partagé ton expérience avec nous. J'ai été ravie. Je te souhaite une bonne continuation sur tous ces projets. Et puis peut-être qu'on se reparlera un jour pour faire un point et parler de nouvelles missions sur lesquelles tu seras.
Carrément.
J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à venir en discuter sur notre blog, blog.humancolors.com, et puis à nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter et LinkedIn. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode.